Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans tous vos challenges personnels et professionnels.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. En matière d'examen de santé, les progrès de la technologie permettent aujourd'hui de mener des explorations qui étaient encore impossibles il y a quelques années seulement. Mais à côté de cette imagerie de pointe, d'autres examens bien plus anciens demeurent non seulement utiles, mais aussi pertinents et performants sur le plan, là encore, du diagnostic. Et c'est à l'une de cette vieille technique qui a pour autre avantage d'être indolore, que nous consacrons cette émission. L'électroencéphalogramme, EEG pour les initiés, des électrodes fixées sur le cuir chevelu, un appareil qui enregistre l'activité électrique, un tracé sous forme d'onde, bilan, diagnostic, suivi. On l'a dit, une technique éprouvée, mais qui n'est pas pour autant accessible partout sur la planète. Car si dans les systèmes de santé de bon niveau, l'EEG est presque devenu un examen de routine, il reste encore rare dans certains contextes, d'où l'importance d'alléger cette technologie en la couplant, par exemple, avec d'autres technologies du quotidien, mobilité et coût réduit pour des soins mieux partagés, une nécessité pour cet examen indispensable. Nous allons le comprendre avec nos invités et nos témoins dans la prise en charge de nombreuses maladies neurologiques ou encore des affections du sommeil. Tout savoir sur l'électroencéphalogramme, mode d'emploi, déroulement de l'examen, pour quelles indications et quelles pistes retenir pour en élargir l'accès au plus grand nombre, y compris dans des contextes d'équipements sanitaires limités. Nous en parlons avec nos invités, avec nous en studio, le docteur Gilles Huberfel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue épileptologue à la Fondation Rothschild à Paris, également chercheur au Collège de France. Nous retrouverons tout à l'heure en ligne de la Guinée le professeur Faudé Cissé, chef de service de neurologie au CHU Niasdine de Conakry, et puis un témoignage, celui de Colline Gagne. Elle est déléguée suppléante de la délégation épilepsie France du département du Lot-et-Garonne. Son diagnostic d'épilepsie a été posé il y a plus de 10 ans à l'occasion d'un électroencéphalogramme. Et en fin d'émission, on retrouvera le docteur Catherine Solano, sexologue, qui répondra à une question d'auditeur.
Priorité santé sur RFI.
Alors, docteur Huberfel, dans ce domaine de la neurologie qui est le vôtre, il y a un examen qui reste non seulement pertinent, mais aussi, on peut dire, indispensable. Malgré les années, même les décennies qui passent, cet examen, c'est donc l'électroencéphalogramme. Dans son nom, il y a déjà le début de réponse à ma question. À quoi sert un EEG ?
Oui, c'est un vieil examen qui est toujours d'actualité. Et l'électroencéphalogramme, c'est un examen qui vise à enregistrer l'activité électrique du cerveau. Les neurones, lorsqu'ils fonctionnent, lorsqu'ils émettent des signaux, lorsqu'ils transmettent de l'information à d'autres neurones, produisent des signaux électriques qu'en fait on va capter un petit peu à distance en posant des électrodes sur cuir chevelu. Attention, il y a aussi des méthodes un peu plus complexes où on peut planter des électrodes directement dans la tête, directement dans le cerveau. Ça ne se fait pas du tout en routine, c'est une indication assez limitée. Mais c'est un vieil examen qui est absolument fondamental et qui, pour être honnête, jusque-là, a assez peu évolué.
Vous dites depuis des années, ça veut dire quoi ? On part au siècle dernier, carrément au début du siècle dernier ?
Alors, toute petite histoire parce qu'elle est assez jolie. La naissance, c'est les années 20 à peu près en Allemagne. Et c'est un neuropsychiatre assez célèbre qui, en fait, cherche autre chose, qui cherche ce qu'on appelle une énergie vitale. C'est un concept un petit peu spirit. Et il veut essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver l'énergie vitale des êtres vivants. Il y a quelques travaux animaux qui montrent qu'en plantant des électrodes dans le cerveau, on peut enregistrer des signaux électriques et se demande si ce n'est pas le reflet de ce qui pourrait être l'énergie vitale chez l'homme, sauf que chez l'homme, on ne peut pas faire comme chez l'animal. Et il a une idée, c'est, alors qu'on est entre les deux guerres mondiales, d'essayer d'enregistrer des patients qui sont des blessés de guerre, qui ont eu des ablations d'os. Et en fait, de cette façon-là, on peut poser une électrode sur la peau et être très très proche du cerveau. Et il commence à faire ses enregistrements, il arrive à enregistrer des activités électriques. Et parce qu'il se trouve dans une ville qui est très proche d'un centre de développement de Siemens à l'époque, il va pouvoir bénéficier d'un nouvel amplificateur bien plus performant, et il va essayer d'enregistrer l'activité électrique du cerveau de quelqu'un qui a encore son crâne. Et qui est-ce qui prend ? Le premier qu'il a sous la main, son fils. Et donc, il va montrer pour la première fois qu'on peut enregistrer à travers l'os, juste en posant une électrode sur la peau, une activité électrique. Et le premier papier qui témoigne de cette activité, il publie en 1929. Et de manière assez drôle, la première activité qu'il enregistre, il l'appelle alpha, la deuxième bêta, et ainsi de suite. Et donc, le nom, qui est toujours le nom donné à ces gammes de fréquences d'activité du cerveau, est issu des travaux de ce neuropsychiatre qui s'appelait Hans Berger.
Et est-ce que c'est toujours un neurologue, docteur Huberfeld, c'est votre métier, toujours un neurologue qui fait passer cet examen?
Alors, c'est un neurophysiologiste. Généralement, c'est une sous-spécialisation de la neurologie.
Alors, il a plusieurs fonctions, hein. Mais vous diriez que la fonction majeure, c'est vraiment le diagnostic ?
La fonction majeure, c'est avant tout le diagnostic. En fait, c'est une fenêtre sur le cerveau qui est absolument unique. Le cerveau, on peut le regarder, mais quand on le voit, on ne sait pas forcément comment est-ce qu'il fonctionne. Et là, le principe, c'est qu'on va enregistrer son fonctionnement, et à ce titre-là, c'est tout à fait différent. Et en plus, on va l'enregistrer avec une dynamique temporelle, c'est-à-dire un suivi, un timing qui est à peu près celui du fonctionnement du cerveau, ce qui est donc absolument merveilleux. Au détriment quand même, il faut le dire, d'une résolution spatiale qui n'est pas terrible. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à être extrêmement précis dans l'espace et on sait qu'on enregistre une région de plusieurs centimètres cubes qui là est nettement, nettement plus que celle des neurones.
On disait, c'est un neuro en gros, un neurophysiologiste ou neurologue qui le fait passer. Est-ce que c'est en général un généraliste qui le prescrit ?
Alors, ça dépend. Ça dépend de ses usages, ça dépend de ses indications. À quoi ça sert, l'électroencéphalogramme ? Il y a pas mal d'indications qui se sont un petit peu resserrées ces dernières années, mais il y a encore 50 ans, par exemple, c'était un moyen de diagnostiquer des tumeurs parce qu'on n'avait pas encore d'imagerie. C'est pas ce qu'il y a de plus performant pour ça. Et finalement, les indications qui restent, c'est d'une part l'épilepsie, qui est une de ses grandes indications. L'épilepsie, ce sont des activités électriques anormales, et comme justement l'électroencéphalogramme enregistre les activités électriques cérébrales, il est très performant pour l'épilepsie. Alors, qu'est-ce qu'on enregistre dans l'épilepsie ? Je vous rappelle que l'épilepsie, c'est une crise un coup de temps en temps. Tomber sur une crise pendant qu'on fait un électroencéphalogramme, c'est honnêtement relativement rare. Mais la chance, c'est que le cerveau épileptique, en dehors des crises, entre les crises, produit des toutes petites décharges. Et c'est justement ça qui va contribuer au diagnostic d'épilepsie. Donc dans le cas du diagnostic, c'est assez fondamental. On peut parfois hésiter entre plusieurs pathologies et l'EEG va nous aider à dire qu'effectivement, cette manifestation, soit atypique, soit qu'on n'a pas bien pu décrire, est plutôt épileptique. Ça va nous aider à dire de quel type d'épilepsie il s'agit, de quelle localisation, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment fondamental pour ça.
Alors on voit donc ce tracé avec les différentes ondes. Est-ce que ça veut dire que pour un même moment de la journée, là c'est vraiment des questions de base parce que j'y connais pas grand-chose, les différentes ondes vont se mettre en route, ou que par exemple si je dors, ce sera tel type d'onde, si je suis particulièrement excitée, excitabilité des neurones au niveau électrique du cerveau, par exemple si je fais une crise d'épilepsie, ce seront d'autres ondes qui vont se mettre en activité, en action.
Oui, tout à fait. Comme c'est un reflet du fonctionnement du cerveau, l'activité électrique produite va dépendre de l'état du cerveau. Donc en fonction du fait qu'on ait les yeux ouverts, les yeux fermés, dans un état de veille calme, reposé, dans un état d'agitation ou de grande concentration, ou qu'on est en train de dormir, ou à différents stades de sommeil, les activités enregistrées vont être différentes.
Et c'est pour ça que c'est aussi utilisé dans des examens liés à des troubles du sommeil. Qu'est-ce qu'on voit dans ce cas-là ?
Tout à fait. En fonction des stades de sommeil, on va voir une activité électroencéphalographique qui est différente. Et donc tout enregistrement du sommeil, en plus de capteurs sur les muscles, sur le cœur, sur la gorge et ainsi de suite, comporte un certain nombre de voies d'électroencéphalogramme pour aider d'une part à bien préciser les stades de sommeil, c'est fondamental pour ça, et éventuellement des troubles du sommeil qui pourraient se traduire par des anomalies sur l'EEG.
En général, quand on passe un EEG, il y a une intuition où la personne peut vraiment avoir une révélation diagnostique après cet examen.
C'est compliqué de répondre à ça. L'intuition, ce n'est pas l'intuition, c'est la demande d'examen.
C'est une symptomatologie qui incite à cette prescription.
Voilà, c'est un examen qui vise à répondre à une question. Les examens médicaux qui n'ont pas de questions, généralement, on trouve des choses bizarres qu'on ne comprend pas. Donc ce qui est fondamental, c'est effectivement qu'il y a une question posée et on s'efforce d'y répondre grâce à l'examen.
Alors avant de rejoindre votre confrère, le professeur Cissé à Conakry, tout de suite un témoignage pour nous familiariser avec le déroulé de cet examen. On retrouve en ligne Colline Gagne, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes la déléguée suppléante de la délégation Épilepsie France du département du Lot-et-Garonne. Vous avez une profession, vous êtes assistante à domicile auprès de personnes âgées handicapées. Docteur Gilles Huberfeld, bien sûr, vous pourriez intervenir quand vous le souhaitez. Colline Gagne, votre premier électroencéphalogramme, ça remonte à quand ?
Alors, à l'âge de 15 ans, donc il y a une douzaine d'années.
Et c'était suite à quels symptômes, peut-être quel changement dans votre état de santé, dans votre comportement que cet examen a été prescrit?
Alors j'avais des crises d'absence que mes camarades de classe avaient remarquées. J'étais en internat, donc ma mère ne l'avait pas remarqué, parce que elle ne me voyait que le week-end. Donc je lui avais signalé que mes amis me disaient que je faisais des choses bizarres quand j'étais au lycée. Ma mère ne me croyait pas plus que ça, parce qu'elle me disait t'es juste dans la lune. Et un jour, lors d'un rendez-vous chez le généraliste, j'en ai profité pour lui parler, parce que des fois je trouvais ça un petit peu gênant. Et le généraliste m'a orienté directement vers un neurologue. Et c'est chez le neurologue que j'ai pu passer l'électroencéphalogramme.
Alors c'est très intéressant ce que vous venez de dire, Colline Gagne, parce que ça va à l'encontre de certains clichés qui entourent l'épilepsie, docteur Gilles Huberfeld, des personnes de l'extérieur qui n'ont pas vraiment de connaissances, qui assimilent forcément l'épilepsie aux crises convulsives. Avec ce témoin, cette patiente Colline Gagne, on voit qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent vraiment passer inaperçus.
Non seulement il y en a d'autres, mais surtout les crises convulsives, elles sont ultra minoritaires, c'est une toute petite proportion.
Oui, mais dans l'imagerie populaire, crises, c'est
sûr,
vraiment ça qui est retenu.
Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de manifestations possibles. Certaines de ces manifestations, c'est juste une rupture de contact, on n'est pas là. D'autres, ce sont des mouvements, d'autres, ce sont des perceptions. Donc, la gamme est assez variée. Et puis, il y a de temps en temps des manifestations qui sont difficilement étiquetables. Par exemple, effectivement, si on est dans la Lune, une des grandes questions, c'est est-on juste dans la Lune ou fait-on un type de crise particulière qu'on appelle les absences, l'électroencéphalogramme va être très performant pour différencier l'un de l'autre.
Alors, sur le plan pratique, Colline Gagne, comment est-ce que s'est passé cet examen? Le premier, vous en avez encore le souvenir?
Oui, tout à fait. C'était assez impressionnant parce qu'à part des radiographies, je n'avais jamais passé d'électroencéphalogramme. Donc, il m'avait mis un espèce de filet sur la tête, ensuite avec les électrodes. Sous les électrodes, il me mettait du sérum physiologique. Et ensuite, ils avaient resserré le filet. Et là, donc, lors du tracé, la secrétaire me demandait de fermer les yeux pendant une certaine durée. Ensuite, elle me demandait de les réouvrir, de les refermer. Et à certains moments, elle me demandait de respirer assez fort. Pareil, pendant une certaine durée. Et ensuite, elle m'avait mis une lumière clignotante devant les yeux. Avec à la fois les yeux ouverts et puis ensuite les yeux fermés.
Alors, vous l'avez dit impressionnant, mais on le répète, indolore. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier au cours de cet examen?
Oui, le médecin est entré dans la salle d'examen récupérer des documents. J'avais les yeux ouverts à ce moment-là. Et donc, il y avait l'écran du tracé. Et puis, il a dit, oula, il y a une belle épilepsie sur ce tracé. Et moi, j'ai pas tout compris sur ce moment-là. Je ne savais pas trop.
Est-ce que c'est à cette occasion que vous entendiez le mot et peut-être se profiler le diagnostic pour la première fois?
Non. Je n'ai pas de suite associé le terme à mon épilepsie. En fait.
D'accord, mais vous ne pensiez pas, avant d'entrer en salle d'examen pour procéder à cet électroencéphalogramme, que c'était ça le nom qui serait ensuite associé à votre suivi médical?
Ah oui, non, tout à fait, je m'attendais à tout sauf à ça.
Vous attendiez. Voilà, en même temps, vous n'étiez pas très vieille. Il faut le dire, les choses comme elles sont. Docteur Huberfeld, comment expliquer, comme ça a été le cas chez Colline, qu'on peut dire cette épilepsie soit aussi visible, évidente? Pour vous, c'est pareil, quand il y a vraiment un patient épileptique, ça se voit à l'œil nu? Parce que nous, quand on voit ces tracés, on ne comprend pas. C'est comme, même pour certaines femmes, une échographie, ce n'est pas toujours clair de distinguer les choses d'une autre. Pour le spécialiste, il le voit directement.
Alors, à l'EEG, à ce jour, effectivement, ça se voit à l'œil nu. On regarde les ondes sur un écran. Et ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a une variabilité importante d'une personne à l'autre. Il y a beaucoup de pièges. Et puis, on a ce qu'on appelle des artefacts, qui est un de nos soucis principaux, qui est un signal électrique qui vient surajouter à ce qui est produit par le cerveau, mais qui, en fait, n'est pas produit par le cerveau. Et le souci de ces artefacts, c'est qu'à la fois, ils peuvent masquer les signaux normaux, et puis ils peuvent être pris pour ce qu'ils ne sont pas. Et donc, l'apprentissage de l'électroencéphalogramme est un peu long. Oui, ça prend du temps, et c'est ce qui contribue d'ailleurs à son faible développement. Il n'y a pas assez d'électroencéphalographie, notamment parce que c'est compliqué à interpréter.
Et c'est un enseignement tout à fait particulier, j'imagine.
C'est un enseignement qui est un compagnonnage. Il n'y a pas de livre qui permette d'apprendre. Il y a assez peu de formations qui soient vraiment efficaces. Il faut passer du temps, comme moi j'ai passé du temps.
On met la main à la pâte.
Ouais, les yeux sur la page, avec des gens qui savent vous l'expliquer.
Alors, ce témoignage de Colline qui a donc fait cette crise, si on peut le dire, même si ce n'était pas une crise en tant que telle, en tout cas, on voyait
peut-être,
une activité épileptique. Il y a une question de Yassir, qui est auditeur du tchat de Djamena, sur la page Facebook. Il demande, est-ce qu'il est bon ou recommandé de faire cet examen quand la personne fait des crises accompagnées de convulsions? J'imagine qu'il y a une certaine crainte physique de conséquences en cas de crise quand on a peut-être les électrodes sur la tête.
Alors, premièrement, l'électroencéphalogramme n'induit pas les crises. Hein, arrive ce qui arrive. Deuxièmement, dans le cas précis donc, d'une épilepsie avec des convulsions, la problématique en fait médicale qui va se poser, c'est est-ce que c'est vraiment des convulsions épileptiques ou c'est autre chose qui pourrait ressembler et l'électroencéphalogramme va contribuer à faire ce diagnostic. Deuxièmement, si on a des convulsions, quel est le sous-type d'épilepsie qui les sous-tend? Et ça, c'est important parce que les traitements vont pouvoir être différents en fonction du type d'épilepsie. Donc oui, c'est parfaitement licite.
C'est tout à fait recommandé. Donc, on vous retrouve, Colline Gagne, en ligne. Est-ce que ce diagnostic, finalement, ça vous a rassuré?
Oui et non, on va dire, parce que quand le médecin m'a reçu et posé le diagnostic, comme je disais tout à l'heure, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Donc, ça m'a soulagée, on va dire, de poser un mot sur ces mots. Donc, on va pouvoir dire ça comme ça. C'est surtout ma mère qui était assez inquiète. Parce que moi, quand on disait le terme épilepsie, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, je m'attendais plus à une personne qui fait des convulsions, qui bave.
Tous les clichés entourant la maladie.
Voilà, exactement, parce que c'est une maladie qui est très peu médiatisée. Bon, ça change aujourd'hui, hein, mais... Malheureusement.
Et entouré, surtout dans certaines régions, de beaucoup de fausses croyances. D'ailleurs, comme ça l'a été aussi en Europe pendant excessivement longtemps, et encore pour le cas dans certains milieux ou dans certains groupes. Vous avez passé d'autres EEG depuis ?
Ah oui, très souvent. Dès que je changeais de médicament ou dès qu'il y avait une augmentation de traitement.
Alors, c'est quelque chose d'essentiel que vous nous dites là, bien répondre au traitement. Aujourd'hui, vous avez la médication, le protocole qui vous convient pour justement avoir le quotidien le plus doux et le plus simple possible?
Oui, tout à fait.
Et ça a été le fruit d'ajustements, de consultations régulières avec votre médecin ou les choses se sont en quelque sorte installées assez rapidement?
Alors non, ça a été le fruit de nombreuses années de consultations et de changements de traitement. J'ai essayé plusieurs traitements et j'ai été implantée d'un stimulateur également. Donc ce sont de longues années.
De longues années. Aujourd'hui, vous vous sentez comment?
Parfaitement bien, je vis très bien avec ma maladie.
Donc ça, c'est un message à faire passer auprès de nos auditeurs. Un bon suivi, un traitement adapté, c'est quelque chose qui peut être extrêmement encourageant pour envisager son avenir. Vous avez déjà un prochain rendez-vous de EEG dans vos plaquettes, sur votre agenda?
Oui, au mois de septembre.
Et vous l'envisagez comment, ce rendez-vous, avec sérénité? C'est quelque chose finalement qui vous rassure au fur et à mesure ou c'est finalement encore une corvée pour un malade chronique comme ça peut arriver vraiment? On en a marre d'aller à l'hôpital, de faire ce suivi parce qu'il faut aussi dire les choses comme elles sont.
Non, je ne considère pas ça comme une corvée. Il faut le faire finalement.
Et votre engagement associatif par rapport à cette maladie, vous percevez ça comment? Vous voyez ça comment?
Eh bien, je vois ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vivent très mal leur pathologie, autant dans le cadre des effets secondaires de leurs médicaments, dans le cadre aussi que leur pathologie n'est pas stabilisée. Ça peut être dur moralement aussi, le fait d'apprendre qu'on est épileptique. Donc, je vais accompagner ces personnes-là.
C'est votre envie aussi d'aider, de tendre la main. Merci beaucoup pour ce témoignage, hein, Colline Gagne. Toujours avec nous en studio, Dr Huberfeld, ce bon suivi, cette bonne réaction au traitement, ce qui permet de concilier vie professionnelle, vie privée, ça fait aussi partie du suivi du neurologue.
Alors évidemment, hein, le principe médical, c'est toujours, surtout dans une maladie chronique, hein, comme l'épilepsie, de diagnostiquer, d'essayer de traiter, évidemment de suivre les gens. L'électroencéphalogramme est généralement assez peu performant pour suivre l'épilepsie. C'est un peu une des particularités. Pour certaines épilepsies particulières, oui, très clairement. Mais pour la grande majorité d'entre elles, l'électroencéphalogramme va rester anormal, qui témoigne du fait, en fait, que nos médicaments, malheureusement, ne rendent pas encore le cerveau pas épileptique, juste ils l'empêchent de faire des crises. Et donc, les suivis par l'électroencéphalogramme se font nettement moins maintenant et honnêtement ne sont pas très efficients, sauf pour certaines épilepsies où là, c'est important. Par contre, il y a une circonstance très particulière où ça va être assez fondamental. Ce sont des patients qui n'ont pas fait de crise depuis longtemps, sous médicaments, chez qui on va se poser la question de l'existence d'une guérison de l'épilepsie. Et là, l'EEG va être très important, parce que s'il reste des anomalies épileptiques, il ne faudra a priori pas s'aventurer à arrêter le traitement. Et si jamais il n'y en a plus du tout, a fortiori s'il y en avait au début, eh bien, on pourra, avec une certaine confiance, arrêter le traitement. Et juste pour vous dire également, on ne retrouve pas d'anomalie épileptique systématique sur l'EEG. On estime qu'il y a 10 à 20% des patients chez qui on ne retrouvera pas d'anomalie, même lorsqu'on les multiplie, les électroencéphalogrammes.
On passe en quelque sorte entre les lignes.
On passe entre les lignes. C'est probablement des patients qui ont très peu d'anomalies et éventuellement des anomalies plus profondes qu'on n'arrive pas à enregistrer en posant des électrodes juste sur le cuir chevelu.
Alors, on va poursuivre notre échange. On partira tout à l'heure en Guinée. Nous aurons aussi un autre témoignage à suivre dans Priorité Santé, toujours en compagnie du docteur Gilles Huberfeld. Ce sera juste après Ohio Players, Love Roller Coaster. Priorité santé sur RFI, la neurologie à l'honneur, précisément un examen qui reste pertinent pour de nombreux diagnostics. L'électroencéphalogramme, nous sommes toujours en compagnie du docteur Gilles Huberfeld, neurologue, épileptologue à la Fondation Rothschild à Paris à présent. On retrouve en ligne de Conakry le professeur Faudé Cissé. Bonjour professeur.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes chef de service de neurologie au CHU Nias Dean, dans la capitale guinéenne. Vous prescrivez des EEG dans quel cas ?
On prescrit des EEG surtout dans l'épilepsie de l'enfant, de l'adulte et du sujet âgé, dans le coma, mais aussi parfois pour des mouvements anormaux qui surviennent la nuit pour lesquels on n'a pas de diagnostic bien précis. On se demande est-ce que ce sont des parasomnies ou est-ce que ce sont des crises d'épilepsie nocturnes ou dites morphéiques. Avant, on les appelait des crises morphéiques. Donc, on essaie de voir un peu est-ce que c'est des crises d'épilepsie ou pas. Mais c'est essentiellement l'épilepsie. Tous les patients qui ont des troubles de la vigilance ou par exemple des syncopes. Et également dans les encéphalites, parce qu'il existe certaines formes d'infection du cerveau qui nécessitent que l'on fasse des EEG pour voir est-ce qu'il y a des anomalies qui nécessiteraient une prise en charge.
Est-ce qu'en général, la prescription, elle a été faite chez vous à l'hôpital ou avant, par exemple, chez un généraliste, chez un autre médecin de la place?
La plupart du temps, c'est soit en neurologie, en neurochirurgie, en psychiatrie et aux urgences. Généralement, dans notre contexte, le généraliste demande un avis spécialisé et c'est surtout dans ces quatre services que les EEG sont prescrits, soit aux urgences, soit en neurochirurgie, en psychiatrie ou en neurologie.
On va dire le parcours de soins normal, donc on va chez le généraliste qui envoie à l'hôpital et après c'est une décision sur place.
Parfait.
Voilà. Alors tout à l'heure, on a eu le témoignage d'une jeune patiente, hein, Colline Gagne, qui a bien insisté sur la dimension. C'est vrai, elle disait, j'étais impressionnée, mais c'était indolore cet examen. Est-ce que là aussi, chez vous, c'est quelque chose que vous voyez? Toute cette technologie, on l'a dit, c'est ancien, mais quand même, il y a une sorte de côté un peu spectaculaire, cinématographique, d'autant plus que dans certains films, le G a un peu été détourné à des fins bizarres. Eh bien, les patients, finalement, ils ont peur qu'on leur mette ces électrodes sur la tête.
Oui, effectivement, ils ont peur parce que ça ressemble à un dispositif un peu impressionnant. On va mettre des plaques métalliques sur la tête. Hein, c'est ce qu'on a. Nous, on a des électrodes qu'on appelle les électrodes cupules. Bon, il y a des casques qui sont beaucoup plus design actuellement en Europe que l'on peut mettre un bonnet qu'on ferme. Mais bon, on explique aux patients que ce n'est pas invasif, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque d'électrocution surtout. Et surtout que c'est très important pour caractériser le type de crise, est-ce que c'est focal ou généralisé? Est-ce que c'est une petite partie du cerveau ou c'est l'ensemble du cerveau? Et cela aide aussi à la prescription des antiépileptiques parce qu'on a une vingtaine d'antiépileptiques disponibles aujourd'hui et l'EEG permet de choisir le type de médicament à donner au patient. Donc il est vraiment rassuré sur le caractère indolore et peu invasif. Et voilà, et de caractère sécuritaire vraiment de l'appareil. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau.
Pas de problème à ce niveau-là. On sait qu'il y a un problème qui se pose très souvent dans votre contexte, professeur. C'est celui du coût et de la prise en charge. Est-ce que ça coûte cher pour les patients?
Oui,
On peut le
faut
dire.
le dire. Ça, oui, on peut le dire. C'est l'équivalent de 40 euros. Il y a non seulement la question du coût, mais aussi la question de la disponibilité. Et il faut noter que dans notre contexte, moins de 5% de la population ont une couverture santé. Et donc, c'est vraiment out of the pocket. C'est-à-dire, le patient paye de sa poche et parfois, il fait 1 000 km pour faire un EEG et ça coûte l'équivalent de 40 euros. C'est le SMIG en République de Guinée. Le SMIG en Guinée est autour de 40 euros. Donc, quand on demande aux gens, c'est comme si en France, on demandait 1 200 euros ou 1 400 euros
Net
à
de la
payer
poche,
sa
hein, sans
poche,
aucun remboursement.
sans aucun remboursement, net de la poche pour faire un EEG, je pense que ça poserait
Ça,
quelques difficultés.
sans aucun doute, d'autant plus qu'il faut le transport. Des fois, il faut attendre pour avoir le rendez-vous une fois qu'on est arrivé parce que
Ah
les
oui.
horaires, ce n'est pas toujours évident. Donc, trouver aussi un hébergement. Et ça aussi, ça compte dans le budget d'une famille. Vous disiez, disponibilité, à l'échelle d'un pays comme le vôtre, la Guinée, vous disposez de combien d'appareils?
Exactement, nous avons 4 appareils pour 12 millions d'habitants. Hein. Il faut rappeler que le ratio de neurologues selon l'OMS, c'est un neurologue pour 20 000. Donc, a priori, chaque fois que vous avez 20 000 personnes, il faut au moins un EEG. Nous, pour 12 millions d'habitants, on a 4 EEG. Donc, c'est un EEG pour 3 millions. Et tous les EEG sont dans la capitale. Et donc, vous imaginez un peu les délais et vous imaginez un peu le coût de la prise en charge. Et comme vous l'avez si bien noté, eh ben, il y a des gens qui font 1 000 km, il faut qu'ils soient hébergés, il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils attendent le rendez-vous. Donc voilà, donc c'est l'accessibilité est encore à améliorer sérieusement dans notre pays parce qu'il n'y a que 4 appareils, ça c'est pas acceptable aujourd'hui. Et qui sont uniquement en neurologie, hein. C'est pas normal.
Qui sont pas dans d'autres services. Alors, ça veut dire que vous y pensez à ces questions, on va dire, très matérielles, qui peuvent bloquer un certain nombre de diagnostics et donc la qualité de la prise en charge. Vous êtes très intéressé par tout ce qui est nouvelles technologies. Sur quel projet ou quel programme déjà engagé vous travaillez?
Actuellement, nous, effectivement, comme vous le dites, on essaie de travailler sur des EEG low cost. Donc, on a beaucoup travaillé avec l'équipe de Boston, au Massachusetts sur le et une équipe danoise sur le développement du smartphone brain scanner. C'est ce qu'on appelle le SBS2 et maintenant le SBS3, qui est en cours de développement avec des ingénieurs danois, qui a pour but de rendre le coût de l'appareil déjà accessible. Si vous demandez une facture pro forma pour un électroencéphalogramme, vous êtes autour de 10-15 000 euros. Et en tenant compte du projet sur lequel nous travaillons, si le SBS3 arrive à terme, il va être autour de 400-500 euros en termes d'appareil. Et cela permettrait d'utiliser ces appareils par une simple infirmière à l'intérieur du pays, comme on dit chez nous, ou dans les zones reculées. Mmh. Et ces tracés pourraient être amenés dans le centre de référence pour lecture et on pourrait faire les prescriptions à distance.
Ça veut dire quoi que c'est un branchement sur le smartphone, c'est quoi ?
Oui, en fait, c'est une tablette qui est connectée à un bonnet et à un boîtier et un Wi-Fi, tout simplement. Donc, avec une tablette, un bonnet et le boîtier à Wi-Fi, le G est enregistré et transmis à la tablette. Et donc, avec Internet, on peut transférer le tracé à un centre de référence. C'est ce qu'on fait avec l'équipe de Boston qui actuellement relie ces tracés-là. Mais nous sommes dans une phase de mise à l'échelle, donc on n'a pas encore à disposition, en tout cas à grande échelle. On a des appareils à Ignazdin, à l'hôpital où on travaille. Mais on voudrait maintenant, avec nos collaborateurs, voir comment mettre cet appareil à l'échelle pour qu'on puisse enregistrer le G à l'intérieur du pays et permettre cet examen beaucoup plus accessible.
Docteur Gilles Huberfeld, avec nous qui vous écoute, pour vous aussi, hein, docteur, l'avenir, ce sont ces moyens d'exploration beaucoup plus légers et aussi forcément moins coûteux.
En fait, il y a deux questions qui se posent. Il y a une question qui est celle hardware de l'équipement et il y a une question qui est également pas triviale et qui, je pense, est nettement plus importante, qui est celle de l'analyse. L'équipement, effectivement, il y a eu très peu de progrès, hein, en 100 ans quasi, les nouveaux progrès sont en train d'arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le signal qu'on enregistre, il est infime et donc on doit beaucoup l'amplifier pour pouvoir le voir et ça, c'est source de complexité technique. Et donc, il y a des solutions hardware qui sont en train de se développer, par exemple, des électrodes comme des patchs qu'on peut laisser sur la peau. Moi, je collabore à un projet français où, par exemple, on met des enregistrements EEG dans l'équivalent d'AirPods, donc directement dans l'oreille.
Des oreillettes.
Ça permet de faire des enregistrements très facilités, au long cours. Un EEG, par définition, c'est pas très long généralement pour un certain nombre de raisons. Là, on peut enregistrer des heures, voire des jours entiers sans le moindre problème. Et donc, ça pose finalement l'autre question qui est: comment fait-on pour s'abstraire de l'œil humain, de l'expertise du médecin qui va analyser les EEG? Je vous ai dit que l'apprentissage était un petit peu long. Et si on a des moyens facilités de faire des électroencéphalogrammes, eh bien on va avoir des quantités de data bien au-delà de ce qu'on peut interpréter. Et donc l'autre grand développement, c'est l'analyse automatisée du signal électroencéphalographique.
L'intelligence artificielle.
L'analyse automatisée.
Oh, voilà.
En fait... Il y a 5-6 ans, peut-être 10 ans, honnêtement, je n'aurais pas pensé qu'on pouvait s'en sortir autrement qu'avec notre œil extrêmement complexe. Et maintenant, je pense que ce n'est plus le cas. Dans un nombre assez restreint d'années, il y aura des algorithmes intéressants, performants sur ce qu'on sait faire nous, mais performants également sur ce que notre œil ne sait pas voir. Notre œil n'est pas performant pour tout. Et ça va booster considérablement le développement de l'électroencéphalogramme. Et ça va permettre aussi de le déployer nettement plus facilement. Évidemment, en Afrique, dans plein de régions françaises, ce serait déjà pas mal aussi, pour avoir des électroencéphalogrammes facilités avec une performance encore accrue par rapport à ce qu'on a de nos jours.
Du quantitatif et du qualitatif. On va vous retrouver dans quelques instants, tout de suite, un nouveau témoignage.
RFI à Libreville, 104 FM.
En ligne du Gabon, on retrouve Gaëlle. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce témoignage concerne votre fille. Elle a aujourd'hui 11 ans. Alors, Gaëlle, suite à quels symptômes, à quel changement dans son comportement est-ce que vous êtes allée consulter?
Ok. Alors, en fait, j'ai remarqué à un moment donné que ma fille, elle avait des absences. Et elle avait plusieurs absences dans la journée et elle se mettait à mâchouiller. Elle avait comme des somnolences.
Et on en parlait en famille, les autres aussi de la famille, dans l'entourage, avaient remarqué qu'il y avait des changements?
Oui, ses sœurs et mes sœurs à moi également. Et j'ai parlé avec ma maman. Mais comme nous sommes en Afrique, on a d'abord pensé à quelque chose de mystique.
De mystique, de la sorcellerie. Quelqu'un avait voulu du mal à la famille ou à la petite. Et finalement, vous avez décidé de consulter.
Pas facilement. Mmh. Je suis d'abord allée sur Internet. Mmh. Et puis j'ai regardé, je me suis demandé quelle maladie pourrait avoir pour manifestation ces trucs-là, les somnolences, les mâchouillements et tout.
Et vous avez trouvé déjà des petites pistes, des réponses en allant sur Internet ?
Oui, tout de suite, j'ai trouvé, ça se nommait le petit mal épileptique. Mmh. C'était carrément les mêmes manifestations que l'enfant avait.
Et quand vous voyez ça sur l'écran, qu'est-ce que vous en pensez en tant que maman ? Est-ce que ça vous rassure ou est-ce que ça vous inquiète ?
Premièrement, ça m'inquiète, puisque je ne sais pas encore ce que c'est. Et puis, lorsqu'on parle d'épilepsie, on voit les grandes crises avec la bave qui sort. Mmh. Et moi, je n'avais jamais vu cette manifestation-là.
Mmh. Quelque chose que vous ne connaissiez pas, d'ailleurs, comme beaucoup d'entre nous. Donc, vous allez à l'hôpital et là, on fait passer l'examen à la petite, c'est ça ?
Non, non.
Ah non.
Je vais à l'hôpital puisque j'étais à Franceville.
Oui.
Là, je vais voir un généraliste. Mm. Le généraliste, il consulte l'enfant, il donne quelques examens à faire. Mais comme il n'y a pas de neurologue à Franceville, il met l'enfant sous des paquines sirop, mais en me faisant une lettre pour aller en capitale pour voir un neurologue.
D'accord.
Voilà.
Et comment elle réagit, la petite, à la prescription, à ce sirop d'antiépileptique ?
Les crises continuent, rien ne s'arrête. C'est plutôt lorsque je viens sur Libreville que je rencontre le neurologue avant de la mettre sous traitement. Elle fait des examens, elle fait passer à l'enfant, elle a prescrit des examens,
ouais.
Examens qui ont été possibles aussi à cause de l'assurance maladie, parce que sans assurance maladie, je ne pense pas que j'aurais pu les faire.
Mmh. C'était beaucoup trop cher.
Voilà. Mmh. Oui, oui.
Donc du coup, elle a passé les examens, elle a été prise en charge, maintenant il y a un traitement qui marche ?
Elle est toujours... Maintenant, elle est sous des paquines chrono. Mais depuis qu'elle a pris des paquines chrono, elle n'a plus jamais fait de crise. Plus jamais.
Donc, elle répond très bien au traitement. Parlez-nous de la petite aujourd'hui. Elle va à l'école, ça marche comment pour elle ?
Waouh, ça va super bien. Ça va super bien. Elle a 11 ans, elle est en quatrième cette année.
Oui.
Super intelligente, elle fait beaucoup de danse aussi.
Oui. Alors qu'on lui avait dit à cette petite fille que son avenir était compliqué grâce à vous, grâce à votre persévérance et à la compétence des médecins. Eh bien, cette petite, elle a un avenir aujourd'hui. On entend, vous souriez.
Oui, oui, je suis super contente.
Vous êtes fière d'elle.
Oui, je suis fière d'elle, je suis fière de moi-même.
Vous avez raison, parce que ce que vous avez fait, c'était quand même pas évident. Hein. On sait que prendre ses rendez-vous, faire de la route, trouver un financement, tout ça, ça demande énormément d'efforts. Des fois, on en a marre aussi parce qu'on est inquiet aussi du diagnostic que vont nous dire les médecins. Et vous, vous avez été bonne sur toute la ligne. C'est vrai hein, ce que je dis, Gaëlle ? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Huberfeld ?
Totalement d'accord, que des championnes.
Voilà, on a envie d'entendre des témoignages comme ça aussi, parce que s'il y a des parents qui s'inquiètent et qui sont à l'écoute, ils se disent, peut-être, c'est vrai, ça va me demander du boulot, ça va me demander des efforts, mais quel résultat ? Parce qu'à l'école, ça va marcher pour elle, et il y aura son sourire tous les matins, au lieu de l'inquiétude de savoir ce qu'elle va devenir. On a toujours avec nous le professeur Cissé. Le témoignage de cette maman, c'est quelque chose de très important, j'imagine, aussi pour vous.
Naturellement, parce que l'épilepsie, c'est la maladie neurologique chronique la plus fréquente et la majorité de ces patients vivent dans les pays en voie de développement. Et comme elle l'a dit, il y a toute cette connotation socio-culturelle qui accompagne cette maladie, ce qui amène un retard de prise en charge. Et donc, un certain nombre de comorbidités, vous parlez de l'anxiété, on parle de la dépression, mais on parle aussi de l'échec scolaire. Hein. Mm. Ça, c'est moins ce qu'on appelle le SUDEP, c'est-à-dire ce sont les décès brutaux inattendus chez les patients épileptiques. Donc les gens parfois tournent en rond, ils vont dans les villages, ils pensent que c'est de la sorcellerie, ils font des états de mal épileptique. Donc état de mal épileptique, c'est des crises qui se prolongent dans la durée, classiquement au-delà de 5 minutes, mais c'est des gens qui font des heures de crise et le cœur s'arrête. Et donc il y a tout un corollaire de comorbidité et de handicap qui accompagne l'épilepsie dans notre contexte, qui fait qu'il est important que les gens fassent de tels témoignages pour démystifier l'épilepsie. Comme l'aurait dit la Ligue internationale, l'épilepsie out of the shadow. Il faut vraiment que l'épilepsie sorte de l'ombre dans les pays à ressources limitées ou dans les pays pauvres et que les gens comprennent qu'avec des médicaments essentiels et même très anciens, hein, comme le phénobarbital, le valproate de sodium, la dépakine dont elle vient de parler, ce sont des médicaments qui peuvent aider à gérer 70% des crises. Donc c'est déjà pas mal.
Dans votre contexte, professeur Cissé, est-ce que ça veut dire que quand on est neurologue en Afrique, il y a aussi tout ce travail de plaidoyer sur l'acceptation ?
Je pense même que c'est la priorité. C'est d'abord la sensibilisation, le plaidoyer auprès des autorités, mais aussi de la population. Il y a un travail de pédagogie énorme à faire pour expliquer aux gens que ce n'est pas vraiment le diable, ce n'est pas la sorcellerie, c'est vraiment une maladie neurologique, une maladie comme les autres, qui n'est pas du tout contagieuse. Parce que dans mon pays, par exemple, vous avez un épileptique dans une famille, on explique aux gens que la salive est contagieuse, donc le patient est stigmatisé. Donc en plus d'avoir la maladie chronique en elle-même avec l'anxiété que ça a, mais la personne se retrouve stigmatisée dans sa communauté. Et donc ça amène de la dépression, ça amène de la réclusion sociale et ça amène une dévalorisation qui est compliquée à prendre en charge et qui rend difficile la prise en charge de l'épilepsie elle-même.
Et sans stigmatiser les attitudes ou quoi que ce soit, vous êtes assez pudique dans votre description parce qu'on a rencontré des auditeurs en allant sur le terrain qui avaient eux-mêmes subi dans leur chair et dans leur vie et dans leur enfance appeler des actes de torture et de traitement inhumain parce qu'ils avaient des crises spectaculaires et qu'autour d'eux, eh bien, c'était la terreur.
On a essayé de les exorciser, c'est sûr. On essaie de faire des choses surréalistes dans notre contexte. Donc voilà pourquoi ce travail de pédagogie est très très important.
C'est une double approche, docteur Huberfeld. On a la côté savoir scientifique et puis l'acceptation culturelle et la compréhension de l'autre.
Mais même à ce titre-là, l'électroencéphalogramme finalement est intéressant parce que montrant un marqueur pathologique du cerveau, valide bien que c'est une maladie neurologique et pas autre chose.
On donne du concret, on donne de l'explication, du rationnel. Parce que c'est vrai que quand on est face à des explications très irrationnelles, parfois, comme on l'a entendu avec beaucoup de crises sanitaires récentes, on a besoin de preuves. Et ça, c'est une preuve. On va dire, avant, c'était sur le papier, maintenant, c'est sur l'écran de l'ordinateur.
Tout à fait, c'est une preuve. Alors, sachant que, encore une fois, on peut avoir
c'est
une épilepsie sans cette preuve. C'est un faisceau d'arguments, in fine, qui va conduire un diagnostic correct. Mais c'est effectivement assez fondamental. Et pour certains patients, il faut être honnête aussi, le diagnostic clinique qu'on leur fait ne leur suffit pas. Et la révélation ultime, l'acceptation ultime, se fera avec l'électroencéphalogramme. Donc, dans le processus d'acceptation, c'est aussi un examen qui peut jouer un rôle.
Un dernier point, professeur Cissé, l'annonce du diagnostic. Peut-être que c'est compliqué pour le patient, est-ce que ce n'est pas encore plus compliqué pour la famille?
Oui, c'est assez compliqué parce qu'on annonce une maladie chronique avec une durée de prise en charge minimale de plusieurs années. Quand le diagnostic de l'épilepsie est fait, si vous devez envisager possiblement du traitement dans notre contexte, il faut que le patient ait pris le traitement pendant 2 ans sans crise. Alors le problème qui se pose dans notre contexte, c'est qu'il faut expliquer que c'est une maladie chronique, ce qui n'est pas souvent
forcément
facile dans notre contexte.
Forcément
et deuxièmement,
facile.
C'est lui expliquer qu'il va payer, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment de sa poche les examens, c'est payer de sa poche les médicaments régulièrement pendant au moins 2 ans sans aucune garantie que les crises vont s'arrêter.
Donc c'est compliqué, on le comprend bien à ce titre-là. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous tous de suivre chaque jour Priorité Santé sur RFI. Et nous allons maintenant parler sexualité avec vous, docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Vous êtes sexologue et vous allez répondre à une question Facebook. Question de Martin de Brazzaville qui demande, il a envoyé son message sur la page Facebook de l'émission, il l'a posté, à quel âge intervient l'andropause chez l'homme? Comment se manifeste-t-elle? Quelles sont les conséquences sur la sexualité? Et Martin ajoute, j'ai entendu dire que c'était l'équivalent masculin de la ménopause.
En fait, c'est l'équivalent masculin, oui, mais pas tout à fait. Déjà, je vais dire que l'andropause, les médecins l'appellent souvent le DALA, ça veut dire déficit androgénique lié à l'âge. Et donc, ça survient avec l'avancée en âge. Et il s'agit d'une baisse des androgènes, c'est pour ça qu'on dit déficit androgénique, un manque d'androgènes, donc c'est une hormone, en particulier la testostérone. Et comme la ménopause, c'est donc un changement hormonal, mais ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'en particulier, ça n'entraîne pas d'arrêt de la fertilité masculine.
Alors, quand on parle de la ménopause, on sait que cette période survient aux alentours de 50 ans. Pour l'andropause, c'est à quel âge?
C'est plus tard. L'andropause, c'est seulement 10% des hommes entre 40 et 59 ans, 20 à 30% de 60 à 69 ans. Donc vous voyez, à 70 ans, il y a 70% des hommes qui ne sont pas en andropause. Donc c'est pas comme la ménopause où à 60 ans, toutes les femmes ont une ménopause. En plus de la fertilité, c'est une des grandes différences parce que tous les hommes ne sont pas concernés.
Comment un homme peut-il savoir que l'andropause est là? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il le ressent?
Oui, ça se ressent. Alors, le signe le plus fréquent et le plus spécifique, c'est la diminution du désir sexuel. Et un autre symptôme qui est très fréquent aussi, c'est le dysfonctionnement de l'érection. Et donc, c'est pour ça qu'il existe un questionnaire qui s'appelle Adam, bon, comme Adam et Ève, hein, qui permet de suspecter l'andropause quand on répond aux questions. Adam, ça veut dire Androgen Deficiency in Aging Male. Ça veut dire déficit androgénique des hommes âgés. Donc, si vous avez plus de 40 ans, vous pouvez écouter les questions. D'abord, il y a deux questions. Est-ce que vous avez une baisse du désir sexuel? Est-ce que vos érections sont moins fortes? Si vous avez répondu oui à une de ces deux questions, on répond encore à d'autres questions. Et parmi ces autres questions, il faut encore répondre à trois questions pour dire peut-être qu'il y a une andropause. Donc, si vous avez répondu non, j'ai pas de baisse de désir, mes érections sont bonnes, vous, a priori, vous n'avez pas d'andropause. Si c'est oui, il faut répondre à d'autres questions.
Alors, justement, alors, quand on appartient à ce deuxième groupe, c'est quoi ces autres questions?
C'est, est-ce que vous manquez d'énergie? Est-ce que vous avez une diminution de force et d'endurance à l'effort? Est-ce que votre taille a diminué? Est-ce que vous avez noté que vous ressentez beaucoup moins de joie de vivre? Est-ce que vous êtes triste et irritable? Est-ce que vous avez remarqué que vos capacités sportives ont récemment diminué? Est-ce que vous vous endormez après les repas, hein, et votre rendement professionnel s'est-il récemment dégradé? Donc, si vous répondez oui à trois questions, vous êtes peut-être en andropause. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce questionnaire détecte 97% des cas d'andropause. Donc, c'est beaucoup, c'est super. Mais il faut dire qu'il détecte aussi bien d'autres choses.
Oui,
c'est
la fatigue, le vieillissement, tout
simplement. Voilà, tout simplement. Mais d'abord, les problèmes de santé chronique, mm-hmm, hein, qui peuvent fatiguer, on est moins efficace, etc. On peut être fatigué. Des médicaments aussi, certains médicaments ont des effets indésirables, et puis la dépression qui peut aussi entraîner des symptômes qui ressemblent à l'andropause.
Donc, pour vérifier tout ça, il faut peut-être faire des examens. Quelle prise de sang?
Voilà, une prise de sang qui consiste à doser la testostérone.
Est-ce qu'il y a des risques pour la santé quand on arrive justement à cette phase de l'andropause?
Oui, Caroline, c'est pas seulement les symptômes que je viens de décrire, hein. Il y a aussi des problèmes au niveau du cœur et des artères, c'est-à-dire qu'en cas d'andropause, on n'a plus de risque cardiovasculaire. Il augmente, la masse musculaire diminue et la solidité des os aussi, donc ça augmente le risque de fracture, la graisse abdominale augmente, et donc en fait la testostérone protège aussi les neurones, donc elle protège contre la maladie d'Alzheimer. Donc soigner une andropause, c'est pas juste une question d'érection ou de libido, c'est aussi tout ça.
Quand on dit soigner, justement, est-ce qu'il existe, docteur Catherine Solano, un traitement?
Voilà, alors on peut donner de la testostérone en traitement quand la testostérone est diminuée. Mais il faut aussi détecter les apnées du sommeil, les ronflements, etc. Parce que c'est important, ça peut perturber la testostérone. On ne va pas seulement doser la testostérone, on va voir s'il y a des choses qui ont agi dessus. Et donc, le premier traitement, c'est l'exercice physique. Pourquoi? Parce qu'à partir de 30 minutes d'exercice physique, la testostérone augmente naturellement. Donc, il faut commencer par se pousser un petit peu et faire par exemple 3 footings de 30 minutes par semaine, il n'y a pas besoin de faire 2 heures, hein. Et ça peut faire remonter naturellement parce que c'est toujours mieux que les médicaments.
Alors on se bouge, mais justement les médicaments, alors, qu'est-ce qui est disponible?
Voilà, les médicaments, c'est la testostérone qu'on prescrit de différentes manières, ça peut être en gel, ça peut être en injection, ça peut être en comprimé, mais le problème c'est que ça donne des bons résultats seulement chez 30% des hommes qui ont une andropause. Donc le médecin propose un traitement d'essai de 3 mois et on ne le continue que si les symptômes s'améliorent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce traitement par hormone bloque la fabrication de testostérone par les testicules, parce que ça remplace la fabrication d'hormones, parce qu'elle était abaissée en cas d'andropause, mais elle n'était pas à zéro quand même. Et donc, on doit continuer ce traitement à vie, parce que si on arrête, ça repart encore moins bien qu'avant, parce que la fabrication de testostérone par les testicules était abaissée. Donc, il faut savoir aussi que ce traitement est totalement contre-indiqué en cas de cancer de la prostate. Ceci dit, quand le traitement fonctionne bien, les hommes se sentent bien plus en forme et dynamiques et ont des meilleures érections aussi et plus de libido avec leur traitement.
Ce qui ne gâche rien. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, et à très bientôt dans Priorité Santé. Notre émission qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Cet Oussamaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Laurence Naud. Demain, question de dermatologie, question de femmes, santé de la peau, mais aussi des ongles. Et prendre soin de ses pieds, des réponses concrètes à vos questions. À demain, d'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans tous vos challenges personnels et professionnels.